Vous y étiez encore il y a quelques jours, Penda Diouf. Est-ce qu'il y a une chose marquante que vous retenez de l'université de Princeton aux États-Unis ?
Je pense aux répétitions peut-être du spectacle Des territoires de Baptiste Amann. Alors, répétitions qui sont déroulées en français par les élèves de Florent Masse.
Et c'était comment ?
Incroyable.
Ouais. Qu'est-ce qui était étonnant ?
Non, je les trouvais très investis, ils avaient un sens à la fois du jeu, mais aussi une compréhension du texte qui était forte. Et je trouvais vraiment que c'était un texte qui leur allait bien et dont les enjeux étaient totalement compris, assimilés et portés, incarnés par eux.
Sylvie Chaila, et vous avez fait une visite à Princeton l'an dernier ?
Alors, la visite à Princeton, c'était par en pleine période de Covid, donc c'était par les dispositifs de visioconférence, et donc c'était pas une présence
virtuelle
sur en fait à Princeton même. Mais c'était un moment très riche, très fort, parce qu'en fait, il se trouve que Florent aussi avait sans doute beaucoup préparé avec les étudiants, mais ce qui m'a beaucoup étonnée...
Florent Masse, le professeur ?
Oui.
Qui vous invitait ?
Florent Masse, le professeur qui a organisé cette rencontre. C'est la choralité, en fait, de la classe, c'est-à-dire que l'arc-en-ciel qui constituait les présences de ces étudiants qui viennent d'origines très 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 diverses et qui ont un rapport au français donc parfois très différent et qui veulent embrasser la culture française avec tous ces paradoxes, avec ces points positifs comme ces points plus sombres. Et ça m'a beaucoup touchée, quoi, de cet attachement-là. Il y avait des gens qui venaient vraiment de territoires des Amériques, pas du tout Amérique du Nord, donc des Asiatiques, des gens qui venaient du plutôt Mexique. Enfin, voilà, ça c'était très très fort.
Et qui s'intéressaient au théâtre français.
Oui. Oui, à cette histoire du théâtre français. Mais c'est lié à l'université de Princeton. Hein. Là aussi, il y a quand même à Princeton des anciens comme Léon-François Hoffmann, qui a été essentiel dans l'histoire aussi de la question du théâtre français et la construction des imaginaires par rapport à la colonisation et à l'image du noir, notamment. Donc, c'est ce fameux nègre romantique, c'est Princeton qui a fait ce livre en 73, je crois. Avec Léon-François Hoffmann. Et puis il y a une bibliothèque extraordinaire, il y a plus de pièces accessibles du théâtre français à Princeton que en France, où l'accessibilité du théâtre du 18e, par exemple, n'est pas aussi grande que ça. Hein. Donc voilà, donc ça c'est vrai que Princeton, c'est une sacrée université.
Il est 20h sur France Culture et il est si reposant de faire semblant dans ce monde de faux-semblants. C'est Didier-Georges Gabilly qui écrit une lettre aux acteurs de l'atelier en 1995. Il continue « Ne soyez pas de ces semblants-là, si c'est possible. Soyez, si c'est possible, et chacun à votre rythme, à votre force, celui qui fait le geste non reconnaissable. Soyez la voix inouïe, le corps non repérable en ces temps de fausse sagesse et de vénale ressemblance. » Et c'est Sylvie Chalaï qui le cite dans son livre « Race et théâtre, un impensé politique ». Elle raconte une histoire de faux-semblants où la scène théâtrale a trop longtemps cru qu'elle était absolument accueillante, jusqu'à réaliser que les visages sur les plateaux étaient bien plus uniformes que ceux présents dans la rue qu'on traversait pour aller au théâtre. Dans le même temps, on a voulu savoir ce que dans une université américaine, en l'occurrence Princeton, les étudiants apprenaient sur le théâtre français. Florent Masse, professeur, nous a parlé de son cours « Race in French Theater », inspiré entre autres du livre de Sylvie Chalaï. Il nous a dit « L'autrice Penda Diouf vient nous rendre visite à la fin du mois ». On a donc eu envie de réunir Penda Diouf à son retour et Sylvie Chalaï pour parler des scènes et de leur pluralité, des faux-semblants et des vraies avancées. De la vraie liberté qui consisterait à arrêter d'enfermer les comédiens non-blancs dans une attente, celle de l'ailleurs, de l'exotisme, du témoignage. Certains seraient autorisés à jouer, mais seulement dans un certain périmètre. Penda Diouf est autrice, comédienne, et dans sa pièce « Piste », la petite Penda pense « Mon corps ne sait pas ce que c'est être à l'aise. Il va falloir s'habituer à être malheureuse et vivre entre solitude et étrangeté. » Et puis soudain, la force de la fiction, de l'imaginaire, permet d'atteindre un ailleurs plus démocratique. Il est si reposant donc de faire semblant dans ce monde de faux-semblants, mais certaines ne se reposent pas et maintiennent haut les questionnements. Nous sommes donc avec l'autrice comédienne Penda Diouf, cofondatrice de Jeunes Textes en Liberté, sensible aux récits et voix manquantes. Penda Diouf revient des États-Unis et de Princeton, où elle y a rencontré des étudiants. Nous sommes avec Sylvie Chalaï, historienne du théâtre, anthropologue des représentations de l'Afrique et du monde noir dans les arts du spectacle. Son livre « Race et théâtre, un impensé politique » est paru chez Actes Sud Papier. Vous écoutez Tous en scène sur France Culture et on commence à Princeton University, avec Florent Mas, professeur dans le département de français et italien. Il enseigne le théâtre français, a créé une troupe d'élèves, l'avant-scène, monte des spectacles et programme depuis 10 ans un festival de théâtre français dans l'université. Le cours qu'il propose depuis l'an dernier s'appelle donc Race in French Theatre. Au programme, les autrices et auteurs Penda Diouf, Léonora Miano, Mohamed El Khatib, Eva Doumbia, Felwine Sarr ou Caroline Biela Nguyen. C'était en septembre dernier, nous nous sommes donné rendez-vous avec Florent Mas à Nassau Street, la rue principale de Princeton, pour entrer dans l'université. Alors là, on est devant l'entrée principale, Florent Mas. Par quelle porte il faut entrer ?
Alors nous, on peut entrer de la ville par cette porte qui s'appelle la Fitz Randolph Gate, mais il faut se rappeler que les étudiants, en fait, entrent par cette porte de la ville sur le campus. Ils entrent là au tout début de leurs études. Ça s'appelle la pre-raid. Mais durant leurs 4 ans à Princeton, il ne faut surtout pas qu'ils traversent la porte Fitz Randolph Gate quand ils sortent du campus. Ils prennent les portes de côté, comme une étudiante que nous voyons maintenant, elle passe juste à côté, elle ne prend pas la porte principale. Parce que c'est symboliquement le jour de la remise des diplômes qu'ils peuvent emprunter cette porte.
Donc nous, on prend la porte principale pour entrer.
Sans problème, on entre sur le campus de l'université.
Est-ce que vous vous souvenez le premier jour où vous êtes arrivé à Princeton ?
Oui, je me souviens très bien. C'était en septembre 2001. Je me souviens même de la date, le 5 septembre 2001. Et c'était une très très belle journée de fin d'été. Je me souviens très très bien de cette première impression en fait de la pierre de Princeton, la pierre des bâtiments. J'étais très impressionné par l'uniformité architecturale du campus. Ça m'a beaucoup frappé de voir la beauté de ce campus. On m'avait dit que c'était un des plus beaux campus des États-Unis. Avant de venir à Princeton, je ne l'avais jamais vu et j'ai été conquis dès le début.
On peut se diriger vers la Common Room ?
Oui, on peut se diriger vers la Common Room, on n'est pas loin du tout. On est, je crois, à peine quelques minutes. Donc en fait, les étudiants peuvent travailler avec moi dans des cours de théâtre français. Alors, ils ont parfois lu des pièces de Molière ou bien des pièces de Jean-Paul Sartre ou d'autres pièces de Ionesco. Donc ils connaissent un peu quelques pièces. Lorsque les élèves arrivent de notre propre section française du département de français et d'italien, ils ont déjà travaillé sur le théâtre français un peu, dans des cours, justement dans des cours avancés de langue. Et ils suivent mes cours une fois qu'ils ont un certain niveau.
Et vous avez pu remarquer parfois des affinités avec une écriture en particulier ou c'est vraiment très... Ça dépend des étudiants, des années
Ça dépend des années, mais j'ai remarqué ils adorent le théâtre contemporain. Ils adorent travailler, par exemple, sur un auteur comme Jean-Luc Lagarce ou Pascal Rambert. J'ai remarqué qu'ils adorent aussi l'écriture de Wajdi Mouawad, ou bien ils sont prêts à différents défis. Lorsque nous avons travaillé notamment le texte de Marie Ndiaye, Berlin mon garçon, c'était un défi, mais ils ont été très très heureux de travailler cette langue.
Il y a ce cours nouveau dont vous nous parliez, Race in French Theatre, depuis 2 ou 3 ans, je crois. Comment vous est venue l'envie de ce cours-là et puis comment vous l'avez élaboré ?
Le cours a été créé il y a un an. La question de la diversité dans le théâtre français était une question assez présente, qui était assez présente déjà en 2009-2020, quand je suivais l'actualité du théâtre français. C'était une question qui était déjà très importante. Et puis avec l'assassinat de George Floyd, il y a eu une accélération sur ces questions. il m'a semblé qu'il était important de proposer un cours sur ce qui se passait en France durant ces années, sur une prise de conscience d'un impensé sur les scènes françaises, un manque de diversité dans les scènes françaises à partir du milieu des années 2010, une prise de conscience et puis des initiatives prises. Et c'est cela que j'enseigne actuellement.
Et là, c'est la rentrée, on est en septembre, donc il y a eu les premiers cours. Mm-hmm. Lors des premiers cours donc introductifs à ce programme, c'est quoi leur question ou... Peut-être, j'imagine qu'ils pensent, ils comparent parfois au théâtre et aux scènes ici, au plateau, aux États-Unis, la façon dont la diversité a été prise en main, peut-être encore de façon plus, peut-être un peu plus tôt qu'en France. Et enfin, quelles sont leurs interrogations premières sur la façon dont on apporte la diversité sur la scène en France ?
Ils sont peut-être un petit peu étonnés ou surpris de voir dans certaines troupes françaises peut-être un manque de diversité. Donc ils le remarquent. Ils remarquent, ils se posent pas mal de questions sur ces manques peut-être qu'il y a eu. À la fois, en fait, ils sont passionnés, tout à fait intéressés par le soutien des arts en France, le soutien institutionnel. Ils sont admiratifs des nombreux soutiens qu'offre le théâtre public français aux artistes. Et ils voient aussi des zones où le théâtre français pourrait aussi avancer.
Et c'est aussi découvrir des écritures, parce qu'il y a ces initiatives institutionnelles, mais dans le programme, ils vont découvrir l'écriture de Penda Diouf, d'Eva Doumbia, par exemple, voir un film d'Alice Diop, La mort de Danton, mm-hmm. qui parle d'un jeune acteur noir qui vient au Cours Simon dans les années 2000, et la façon mm-hmm. dont il a du mal à accéder à tous les rôles à ce moment-là. Donc il découvre aussi des artistes et des écritures très contemporaines qui prennent en charge cette question-là.
C'est ça. Alors, très important aussi pour eux de comprendre que l'importance des récits qui ont manquant. On regarde aussi la captation du travail de Caroline Guyella en Guyane. On regarde Saigon, l'importance qu'a eu aussi ce spectacle dans la diversité culturelle. Ça a été un moment important à Avignon en 2017. Caroline Guyella Nguyen a travaillé avec des comédiens non professionnels qui représentaient justement la très très grande richesse qu'elle voit dans la société pour la porter au plateau.
Quand vous parlez d'acteurs ou de comédiens BIPOC, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors aux États-Unis, BIPOC veut dire Black Indigenous People of Color. C'est important ici, en tout cas dans les programmations. Et dans le travail que nous faisons, notamment au Lewis Center for the Arts, de mettre en avant, de promouvoir les artistes BIPOC, c'est important.
Et vous disiez que ça a même, ces interrogations-là, changé toute l'organisation, la structure, de la façon de faire, de recruter au Lewis Center for the Arts, qui est donc le théâtre là, qui n'est pas très loin dans l'université, de là où on est. Ça a changé la façon de faire, de tous.
Ça a changé la façon de faire, puisque le programme de théâtre de l'université de Princeton a souhaité rendre le processus d'audition pour les spectacles créés dans la saison. Cette saison, elle est composée de travaux d'élèves. Ce sont des élèves qui sont metteurs en scène, qui écrivent des pièces ou bien qui jouent dans des spectacles. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus d'audition, comme il y en avait avant, avec des rappels, avec des deuxièmes tours, des troisièmes tours. L'idée, c'est de rendre en fait l'expérience de théâtre la plus accessible possible, la plus large, la plus inclusive. Il n'y a plus d'audition, par contre, il y a des jours de rencontres qui s'appellent les try-out days. Les artistes créateurs de l'année rencontrent des jeunes étudiants arrivant ou en deuxième année ou en première année qui s'intéressent à jouer, qui s'intéressent à participer au programme de théâtre. C'est une rencontre, c'est un atelier géant, et de ces rencontres vont naître des collaborations.
Et dans ce cours of Race in French Theatre, ça va être quoi leur devoir ? Qu'est-ce qu'ils vont faire ?
Il y a plusieurs devoirs, c'est une très bonne question. Alors là, les devoirs, un premier devoir est une rencontre avec des artistes français, plusieurs artistes français d'origine subsaharienne, d'origine maghrébine ou d'origine asiatique. Les étudiants vont rencontrer un ou une artiste. Et l'idée, en fait, de ce premier travail, de cette rencontre, c'est de parler de leur parcours, de les interviewer, de les rencontrer et d'en faire un portrait. à l'instar peut-être de ce qu'avait fait, je pense au New York Times, qui présentait des nombreux portraits d'artistes BIPOC, justement, dans les années, au printemps 2020. Le deuxième travail est plutôt une fiche de lecture sur un texte. Alors, nous lisons ensemble en classe plusieurs textes. On va en lire cinq. Il y a une pièce de Penda Diouf, c'est la pièce Piste. Penda Diouf, d'ailleurs, va nous rendre visite durant une semaine, début octobre. On va lire la pièce Piste, on va lire une pièce d'Eva Doumbia, Le Yinche. On va lire également Finir en beauté de Mohamed El Khatib. On lit Aquila ou le tissu d'Antigone de Marine Bachelot Nguyen. Je pense à une autre pièce, c'est la pièce de Baptiste Amann, Des territoires et tout sera pardonné, que je monte aussi avec mes étudiants à l'avant-scène. Voilà les cinq pièces que nous lisons ensemble, mais je vais donner d'autres textes, d'autres auteurs, d'autres autrices à mes étudiants, et chacun va faire une fiche de lecture en peut-être expliquant la nécessité, l'importance de monter cette pièce, de la présenter, de la jouer. Et donc là, le dernier travail, c'est peut-être un travail de synthèse sur tout le cours. Je vais attendre des étudiants qu'ils me présentent, selon eux, les initiatives, les mesures les plus importantes à prendre pour non seulement consolider les progrès qui ont été faits dans le théâtre français contemporain depuis quelques années, non seulement consolider, mais continuer à avancer.
Et après, tout va être envoyé à Rima Abdulmalak, notre ministre de la Culture.
C'est le projet. Nous lui enverrons un peu cet état des lieux et ces recommandations des étudiants de Princeton. On fera ça.
Peut-être avoir des sublimes idées pour le théâtre français.
On l'espère. On l'espère. C'est ce qu'on fera à la toute fin décembre ou début janvier. Nous lui enverrons les propositions d'étudiants, les recommandations. En tout cas, ses devoirs.
Et il y a un livre, je crois, qui a été important pour penser le cours, c'est un livre de Sylvie Chalaille.
J'étais d'abord très heureux de tomber sur le livre dans une librairie théâtrale à Paris, de le voir, de le lire. Découvrir le livre, c'était en février 2020. Donc j'étais très heureux de voir un livre sur le sujet. Je l'ai lu immédiatement.
Le titre du livre,
c'est Race et théâtre. Je l'ai lu immédiatement et ça a conforté cette idée de cours sur la diversité dans le théâtre français que j'avais déjà en tête. Ça l'a conforté, ça m'a vraiment motivé à faire le cours, vraiment. Et je me suis dit, c'est excellent qu'il y ait ce livre. Nous le lirons, on le lit là d'ailleurs, on va le lire dans deux semaines. On passe une semaine sur le livre. L'an dernier, Sylvie Chalaille nous a rendu visite aussi dans le séminaire. Et là, j'ai vraiment hâte qu'on puisse le lire dans quelques semaines.
Là, on s'est finalement assis sous les arbres, parce que c'est l'été indien à Princeton. On peut juste entrer dans la common room.
Allons-y.
Donc là, c'est Rockefeller College.
C'est ça, on est même entre deux collèges. Il y a Matty College et Rockefeller College. Et nous allons entrer dans la partie Rockefeller College. Là, on va être dans un très beau lieu qui s'appelle la Holder Courtyard. C'est une grande cour ouverte de la résidence du collège où a vécu Francis Cole Fitzgerald. Il a habité là en tant que jeune étudiant au début du XXe siècle. C'est un très très beau lieu où j'ai aussi monté des spectacles avec les étudiants. On a notamment joué Partage du Midi de Paul Claudel et Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand dans cette cour. On va entrer dans la common room qui a aussi été utilisée dans le film Un homme d'exception avec Russell Crowe. C'était un film qui est sorti en 2001. Voilà, nous sommes dans la common room qui est un lieu... On a passé beaucoup de temps à faire du théâtre français, alors en réorganisant un petit peu la salle, et où je continue d'ailleurs en semaine, dans des moments assez calmes, parce que la cafétéria est juste à côté, mais dans les moments calmes, on répète aussi beaucoup ici, l'acoustique est merveilleuse.
Il y a un piano à queue, en bois, des fauteuils, des canapés, des tapis.
On a cette très très belle vue sur Nassau Street, la rue principale de Princeton, très très belle vue, et souvent voilà, c'est là que ça se passe pour travailler, pour répéter de nombreuses scènes des répertoires classiques et contemporains français. On a passé beaucoup de temps avec le programme ici, beaucoup beaucoup de souvenirs dans ce lieu, beaucoup de souvenirs et d'autres à écrire, surtout dans cette common room que nous pouvons à présent réutiliser.
Ben Fontaine d'Azur, ça vous a rappelé des souvenirs très récents?
Oui, j'ai plein d'images qui me reviennent. Là, j'entendais Florent qui est un guide incroyable. Et je l'entendais, et effectivement, je visualisais les lieux où on était ensemble il y a à peine une semaine. Et effectivement, c'est une université qui est... Qui a beaucoup de moyens. On se croirait un peu chez Harry Potter lorsqu'on y est, mais il y a aussi beaucoup d'énergie et beaucoup d'investissement aussi, et de la part des étudiants et étudiantes, et de la part aussi du corps professoral.
Et quand vous les avez rencontrés, alors c'est le début du semestre, donc c'est le début de ce cours, mais j'imagine qu'ils avaient lu Piste, votre pièce. Ça a été quoi leur question, ou peut-être les choses marquantes de la rencontre avec ces jeunes étudiants américains?
Oui.
Américains, ou d'ailleurs, comme le disait Sylvie Chalaï, ils viennent d'un peu partout.
Effectivement, dans ce groupe, il y avait des profils très divers. Alors j'ai eu des questions sur la forme. Qu'est-ce qui avait guidé la forme, par exemple, puisque c'est un long monologue. Donc pourquoi j'étais partie sur la forme monologuée et sur la question de l'autofiction. Ça c'était une question qui était intéressante sur la forme. Il y avait aussi la question du témoignage.
Peut-être dire que Piste raconte l'histoire de cette femme noire qui grandit en France et qui part en Namibie en voyage et découvre l'histoire de ce génocide au début du XXe siècle sous la colonisation allemande.
Exactement.
Et puis il y a aussi la figure d'un athlète, Frankie Fredericks, qui est son idole. Donc il y a plusieurs couches de récits qui se croisent. Mmh. Pour redire...
Oui, merci de recontextualiser. J'ai eu aussi des questions sur la question de la couture, parce que je parle beaucoup de la couture dans le texte. Et il y a une sorte de voix de couturier, couturière qui ponctue le texte, et on m'a aussi posé la question d'où est-ce que ça vient. Donc pour moi, la couture, c'est aussi la question de l'artisanat, de l'écriture. C'est aussi la question du soin, de la réparation, et puis d'assembler, comme je le dis dans le texte, des tissus d'histoire épars. Donc c'était ça. J'ai aussi des questions par rapport à... il me semble aussi qu'on m'a demandé le titre, Piste au pluriel, avec trois points de suspension, d'où ça venait. Donc c'est aussi Piste, c'était à la fois les pistes personnelles, les pistes de l'intime, c'est aussi les pistes d'athlétisme, puisqu'effectivement... Je parle d'un athlète qui s'appelle Frankie Fredericks, qui est un athlète namibien à la retraite aujourd'hui, mais très grand athlète international. Et c'est aussi les pistes liées au voyage et aux pistes que j'ai empruntées en Namibie pour faire le tour du pays pendant un mois et demi.
Sylvie Chaillaï, vous avez pris beaucoup de notes pendant que Florent Masse parlait.
Oui.
Après, de Princeton et de ses étudiants, est-ce que... en rencontrant Florent Masse et en parlant de son cours, qu'est-ce que vous avez pensé de son programme et des textes et des initiatives qu'il fait découvrir à ses étudiants?
Alors, moi, je trouve que la vertu du détour est extraordinaire. Comment, finalement, en passant par les États-Unis, en passant par Princeton, on peut amener, finalement, le regard des Français à voir que le théâtre français... Ce n'est pas un théâtre blanc, mais que précisément le théâtre français est fait d'auteurs qui ont donc des histoires, des origines multiples. Parce que il n'y a qu'en France que l'on fait cette fameuse séparation entre le théâtre français, dans lequel on pourrait mettre effectivement, si on parle du contemporain, donc bien sûr, par exemple, Coltès, ou également Lagarce, ou Michel Deutsch, et d'autres, qui pourtant ont parlé des questions d'altérité. Dieu sait que c'est le cas de Coltès. Mais par contre, si on veut faire un cours dans lequel on étudierait Penda Diouf, Kofi Kwaoulé, Kossi Efoui, ou José Plia, ou encore Kaya Makélé, ou des auteurs même plus récents comme Dieudonné Nyanguna, ou Aristide Tarnagda, eh bien là, on va faire un cours sur la francophonie. Et du coup, on crée immédiatement un clivage. Et ça, c'est la réalité du champ d'enseignement lié aux dramaturgies, mais aux littératures aussi. On parle du théâtre aujourd'hui, mais c'est la question de la littérature en France.
D'ailleurs, on va en parler, mais c'est ce que vous décrivez aussi dans le livre, ces espaces comme des festivals ou des qui sont consacrés à ce qu'on appelle la francophonie et qui, de fait, enferment aussi, comme vous le dites, certaines écritures à l'intérieur d'un territoire bien délimité.
Absolument. Donc, à partir du moment où des chercheurs américains peuvent dire, comme Judith Miller ou Florent Masse ou Dominique Thomas aussi, que le théâtre et la littérature française doit comprendre également donc des auteurs qui sont dans des origines diverses, qui sont liées effectivement à l'histoire coloniale, mais qu'il y a cette dimension-là, déjà ça peut un peu ouvrir les yeux. Mais il est vrai que de notre côté, bon, la question des festivals, la question des théâtres, des scènes, c'est que on est toujours dans la nécessité de rechercher une justification. Donc, quand un artiste, qui a des origines, comme on dit, hein, beaucoup aujourd'hui de hip-hoppers, justement, s'amusent avec ça en disant « Oui, mais moi, j'ai des origines. Toi, tu en as pas, mais moi, j'en ai. » Donc, le principe, bon, c'est une boutade, mais il s'agit, en fait, très souvent de dire « Oui, ah, ben oui. » Ah ben, mais si vous avez tel ou tel spectacle à monter d'un auteur, donc par exemple comme Cossy Efoui, alors à ce moment-là, qui est togolais hein, d'origine, mais qui vit en France depuis des années, et qui est né d'ailleurs en 62, voilà, il fait partie de ces générations qui ont pu réintégrer par exemple la nationalité française, comme on dit. Ben, il se trouve qu'on va leur proposer d'aller plutôt voir avec le Festival des Francophonies en Limousin ou à l'époque, puisque le Tarmac, ex-Théâtre International de Langue Française, n'existe plus aujourd'hui, mais à l'époque, c'était cela. Et puis, bon, il y a cette façon de créer finalement donc des territoires ghettoisants, quelque part. Et ce qui est très grave, c'est que les artistes eux-mêmes, à un moment donné, finissent par... Donc, par intégrer cette ligne. Alors, en France, on adore les termes qui sont édulcorants, hein, qui sont. Donc, on ne parle pas de ligne de couleur. Et quand on parle de la question de la francophonie, on ne veut pas dire noir. Hein, oulala, mais est-ce que ça ne serait pas un mot grave de dire noir? Alors, du coup, aujourd'hui, si on veut faire des détours, on va parler d'artistes, de créateurs, d'auteurs non blancs. Parce que au moins on peut pas les enfermer dans la question donc de la couleur, mais en même temps on occulte des pans entiers de l'histoire. Par exemple, bon, si on parle d'Africains, on va dire ah oui c'est vrai, il y a les littératures africaines dans la francophonie, on parle de la littérature africaine, mais et qu'est-ce qu'on fait en fait de tous les territoires ultramarins? Qu'est-ce qu'on fait de toute cette part de la nation française qui est sur les autres océans que la Méditerranée ou l'océan Atlantique, mais qui sont de l'autre côté, donc du côté de la Caraïbe, du côté du Pacifique, et qui sont eux aussi non blancs? Et que du coup, on envisage seulement que dans un rapport d'exotisation, dans un rapport de voyage, de lointain, et on leur demande, on les enjoint effectivement de nous apporter le soleil de la Martinique. Mais le soleil de la Martinique ou le soleil de la Guadeloupe, bon, c'est une chose, mais ils ont aussi une pensée artistique, une créativité, et... on les met où? Alors, il faudrait faire un théâtre pour les ultramarins? Non, il y a un seul espace qui a ce pouvoir-là et qui ne se pense pas comme un théâtre ultramarin. C'est le théâtre de la Chapelle du Verbe Incarné en Avignon, qui est un théâtre qui fonctionne pendant le Festival d'Avignon et qui crée finalement des spectacles qui diffusent, présentent des spectacles du grand large, c'est-à-dire de toute la France. Que ça soit la France ultramarine, que ça soit aussi la France des marges. Donc, c'est peut-être des espaces d'un autre théâtre. Et c'est vrai que c'est important cela, parce que les auteurs, finalement, dont nous parlons et que Florent Masse met à l'étude dans son cours, sont des auteurs qui ont énormément de mal. En tout cas, ceux qui sont effectivement issus de ces marges-là, qui ont du mal à trouver un espace de représentation sur les théâtres institutionnalisés, donc les centres dramatiques, par exemple, c'est très exceptionnel. Et par ailleurs, donc ils sont par contre montés à l'étranger.
Alors avant de poursuivre et de remonter un peu l'histoire, Sylvie Chalaille, on va écouter un message d'un étudiant de Princeton qui lui a suivi ce cours l'an dernier et qui nous raconte ce qu'il a retenu.
Bonjour, je m'appelle Reese White et je suis étudiant en quatrième année ici à Princeton University aux États-Unis. J'ai eu l'opportunité de prendre le cours de prof Florent Mass l'année dernière qui s'appelait Race and French Theater, la race et le théâtre français. C'était un cours incroyable. L'expérience la plus marquante de ce cours était l'opportunité de rencontrer l'actrice franco-réunienne Océane Cariti. Je l'ai interviewée pendant 45 minutes et on a discuté quoi que ce soit. On a discuté son parcours dans le théâtre, ses conceptions, ses idées de la race, le chemin pour aider à changer l'état des choses en France vis-à-vis de la race. Et je lui ai parlé au sujet de son rôle dans Ce qu'il faut dire, la pièce magnifique de Leonora Miano. Et on a parlé du thème de la réconciliation et non pas la vengeance, cette opportunité de se regarder les yeux dans les yeux et avancer ensemble comme race humaine. Et ça, c'est ce qu'il faut faire pour atteindre cette cible d'égalité et de diversité dans le théâtre. J'ai aussi remarqué pendant ce cours la différence entre la France et les États-Unis en ce qui concerne la race. Ce qui était intéressant pour moi, c'était l'idée que les écoles de théâtre en France sont centralisées et sont fondées, oui, par le gouvernement. Ça a ses propres difficultés à cause de la manque de reconnaissance de la race dans le gouvernement français. Ce qui est assez différent aux États-Unis où la race est dans notre constitution, ce qui est différent en France. Et je pense que qu'en ce moment, les temps changent et les choses améliorent ici aux États-Unis et en France. Évidemment, ce qui est une bonne chose. Mais il y a toujours du travail à faire. C'est en toute forme de diversité. Les réalisateurs aux États-Unis qui sont nominés par les Oscars sont souvent les hommes blancs, souvent les acteurs. Oui, ça, c'est les Oscars. Mais aussi les directeurs du théâtre pour les Tony, les prix Tony ici pour le théâtre sont souvent ou majoritairement blancs. Donc il y a toujours du travail à faire, ce qui est évident quand on voit l'émission de ces prix. Et j'imagine qu'il y a ce travail à faire aussi en France.
Penda Diouf, vous parlez souvent d'une première émotion théâtrale à Bobigny quand vous êtes jeune. C'est une mise en scène de Jean-René Lemoine. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Alors à ce moment-là, je suis étudiante. C'est ma première ou deuxième année en Ile-de-France. J'habitais à Dijon avant. Et donc je travaille comme ouvreuse à la MC 93 à Bobigny, où j'ai eu la chance d'être accueillie par la suite. Mais à ce moment-là, je vais voir les spectacles, du coup, puisque j'y travaille. Et je vois La Cerisaie de Jean-René Lemoine avec tous ces corps afro-descendants, non blancs. Et c'est vrai que j'ai une sorte d'émotion très forte, déjà à me voir représentée sur scène, à me voir en nombre représentée sur scène, à voir tous ces talents également sur scène. Et je me suis dit, mais on est là et on existe, en fait. Parce que lorsque l'on grandit avec un déficit de représentation, que ça soit à la télévision, au cinéma, au théâtre ou à la danse, c'est vrai qu'il est difficile à la fois de se projeter, puis de se projeter aussi dans certaines carrières. Et la carrière d'autrice, hein, que j'avais envie d'embrasser déjà à l'époque, pour moi, me semblait très, très éloignée de moi et de mon quotidien et de voir ce spectacle, d'une certaine façon, ça m'a réancré et ça m'a permis de me dire, c'est possible et il y a des comédiens et des comédiennes pour qui tu pourrais écrire en plus.
Sylvie Chalaï, ce qui est intéressant dans Race et Théâtre, un impensé politique, donc qui a paru chez Actes Sud Papier, c'est que vous retracez aussi l'histoire et vous racontez comment, après la Seconde Guerre mondiale, les plateaux de théâtre sont plutôt mélangés. En tout cas, il y a des acteurs de Antillais, Africains, Martiniquais qui ne sont pas perçus comme des étrangers. Et qu'il y a un changement vers les années 60, 70. Qu'est-ce qui change à ce moment-là? Et vous dites qu'il y a des acteurs très connus des années 60 qui étaient sur les scènes, qui tout à coup deviennent des stars du doublage au cinéma parce qu'on ne les voit plus sur les plateaux. C'est quoi ce basculement?
Alors, le basculement qui est évidemment historique, c'est celui de la décolonisation et des indépendances. Hein. Donc, bien sûr que les artistes afrodescendants qui occupent les scènes du théâtre des années 50 sont des artistes qui sont pas forcément perçus comme étrangers, mais qui sont perçus comme appartenant de toute façon à la Grande France, comme on disait à l'époque. La France est un empire. Elle a des colonies, elle a donc des coloniaux, comme on disait, les coloniaux, ce sont les sujets de la colonie. Et ça n'est pas plus étrange que cela. Ce qui est important à l'époque, c'est qu'on est en fait dans la période aussi des retombées de la construction de la décentralisation. Il y a toutes sortes de compagnies qui se créent, qui sont des compagnies qui cherchent à démocratiser le théâtre, à faire un théâtre populaire. Et ça participe aussi de cet enjeu-là. Ce qui fait que les Jean Villard, les Jean-Marie Serrault, les Pierre Debauche, les Bourseillais aussi sont des gens qui intègrent dans leurs troupes, qui ne sont pas des troupes finalement d'État. Parce qu'il faut voir aussi que le théâtre subventionné n'existe pas à l'époque. La plupart de ces compagnies sont des compagnies indépendantes. Elles ne sont pas privées au sens où on l'entend aujourd'hui, mais elles sont indépendantes et elles trouvent des moyens pour travailler qui ne sont pas liés à des subventions d'État. Ce qui fait qu'ils cherchent justement à créer des collectifs qui soient ouverts sur une société qui est multi-chromatique, en fait. Et du coup, il y a des acteurs, dans la plupart de ces compagnies, il y a des acteurs qui sont aujourd'hui complètement ignorés, invisibilisés, parce qu'après la colonisation, après donc les indépendances et la départementalisation pour les îles donc des Antilles en particulier, eh bien il y a une espèce de balayage mémoriel, comme s'il fallait à un moment donné effacer l'ardoise magique et puis essayer de plus se souvenir de ce qui s'était passé avant. Alors que donc il y a des comédiens qui sont, alors Daniel Sauch, je peux en donner quelques-uns, donc c'est important d'avoir, parce que très souvent ces noms-là, ils sont pas loin de nous, on sait même pas que en fait ils étaient afrodescendants. Vous savez, il y a pléthore d'artistes qui ont fait la scène française qui sont afrodescendants. Mais on ne sait pas qu'en fait, enfin, il faudrait bien dire qu'ils auraient été racisés aujourd'hui. Mais à l'époque, on n'appuyait pas forcément sur cette dimension-là. Et on peut citer, par exemple, Daniel Sorano. Il était question du Cyrano de Bergerac. Tout à l'heure, Florent évoquait que Cyrano de Bergerac avait été monté donc à Princeton. Eh bien, Cyrano de Bergerac, dans les années 60, avait fait un événement à la télévision parce que Barma avait monté donc le Cyrano de Bergerac avec Daniel Sorano, qui est en fait sénégalais. Qui jouait donc le personnage principal. Alors c'est pas étranger à son histoire, hein, bien sûr, parce que en tant que Sénégalais ayant grandi à Toulouse, c'était là aussi. Enfin, il ne faisait pas forcément exactement ce qu'il aurait souhaité, parce que le racisme était bien là. C'est pas parce que les choses étaient différentes qu'il n'y avait pas non plus de racisme et d'indexation par rapport à l'autre, à celui qui n'a pas la couleur majoritaire. Dans les lycées de Toulouse, il était certainement avec certains soucis de cet ordre-là. Mais aujourd'hui, on a complètement oublié que Daniel Sorano était noir. Voilà. Alors évidemment, il est clair, hein, il est clair de peau, mais il est noir. Et alors suivant les éclairs, ça me fait beaucoup rire. Ça me fait rire parce que vous voyez, donc même quand on expose aujourd'hui, il y a une très belle exposition sur Molière. Et quand on dit Jean Messis, si, Daniel Sorano qui jouait Sganarelle à côté donc de Jean Villard et qui a été un grand héros effectivement de la troupe de Jean Villard, eh bien il était racisé, oui, il était noir. Donc il y a Daniel Sorano, Georges Aminel, lui d'origine martiniquaise qui était à la Comédie Française. Il y a vraiment donc voilà, on va pas refaire l'ensemble des artistes parce qu'il y avait pléthore, hein, vraiment c'est des dizaines de comédiens, Douta Seck, Bachir Touré qui travaillait avec Jean-Marie Serrault, Daniel Van Berschek, certains sont encore vivants à Cogneau de l'eau aujourd'hui, bon c'est des gens qui ont plus de 80 ans hein, et qui ont connu cette époque. Ces artistes-là, on les a oubliés à cause de la rupture qu'a constituée effectivement la décolonisation et ensuite la construction de la mauvaise conscience, le rapport à la mauvaise conscience. Donc, quand quelque chose dérange, il vaut mieux l'effacer et penser que non, ça n'existait pas. Sauf que ça n'est pas possible, on ne peut pas régler nos comptes avec l'histoire coloniale de cette manière, c'est-à-dire en tournant le dos à la réalité.
Je vais lire un petit témoignage et celui-là se réfère à une époque plutôt dans les années 80. C'est à l'origine de la création du Festival des Francophonies en 84 à Limoges et c'est Pierre Debauche et donc vous citez ce témoignage dans le livre. Il raconte « J'avais terminé mon séjour avec une mise en scène de Shakespeare, un Othello où il y avait 17 Martiniquais qui jouaient les Vénitiens et un Blanc qui jouait Othello. C'était une image caraïbe intacte, magnifique, et Césaire souhaitait que ça se joue en Avignon. J'ai donc été voir Fèvre d'Arcier qui était aux commandes, il m'a dit « Mais c'est des Martiniquais, on ne comprendra pas le texte ». C'était charmant, après 3 ans de boulot. Alors de colère, j'ai fondé le Festival des Francophonies de Limoges. La colère qui m'avait inspiré cette réponse, ou cette non-réponse plutôt, m'avait convaincu qu'il fallait créer un espace pour faire venir ma mise en scène martiniquaise. Mais surtout pour permettre d'ouvrir les yeux sur l'ailleurs et de faire connaissance avec des auteurs de la Caraïbe et d'Afrique qui écrivaient en français. C'est intéressant de se dire que c'est ça l'origine de ce festival qu'on connaît bien maintenant aujourd'hui.
Oui, Pierre Debauche a en fait s'est retrouvé à Limoges pour diriger donc le centre dramatique et il s'est dit voilà, c'est l'occasion de lancer ce festival avec Monique Blin, c'était très important, Monique Blin a été très très importante, elle est décédée récemment, il y a maintenant peut-être un peu moins d'un an et en fait, il s'agissait effectivement de faire connaître les littératures, les théâtres de ces ailleurs qui ont constitué la nation française. Et du coup, le projet de Debauche a été appuyé. Donc, la gauche venait d'arriver au pouvoir. Abi Rached, lui-même d'origine libanaise, qui a été un universitaire important de l'histoire du théâtre, hein, qui enseignait notamment à Nanterre, devient le directeur du théâtre au ministère et il va être sensible à la demande. Mais il y a plusieurs événements qui se produisent dans ces années 80. C'est à la fois la création du Festival des Francophonies, la création aux États-Unis de l'UBU, c'est-à-dire c'est Françoise Kourilski qui crée un espace pour faire connaître les théâtres français en traduction américaine, pour que les gens donc n'aient pas la nécessité de connaître le français. Et du coup, elle fait connaître des auteurs, bon, Césaire, Ina Césaire, mais aussi des auteurs français ou d'origine africaine, comme Kofi Kwaoulé, par exemple, il sera traduit d'abord là-bas. Et d'ailleurs, une de ses pièces, sa première pièce reconnue, elle est d'abord montée aux États-Unis. Elle est montée d'abord là-bas. Donc, ce moment-là est important. Le TILF se crée aussi. Hein, donc, c'est toujours ces années 80, le Théâtre International de Langue Française. L'idée étant de faire... C'est politique, parce que l'idée est de faire connaître que ceux qu'on montre du doigt, qui sont envisagés comme l'image d'une France de migration... Parce que c'est ça aussi les années 80, c'est une autre étape. Hein. Toute la campagne quand même politique qui s'est faite à ce moment-là s'est faite aussi dans un contexte de violence face aux extrémismes de droite et au nationalisme qui voyait les immigrés comme ceux qui amenaient le chômage, en fait, qui étaient responsables du chômage. Et du coup, c'était important aussi de tenter d'ouvrir les yeux de la nation française sur la richesse de la créativité de ceux qui n'étaient pas seulement des pauvres migrants.
Alors plus récemment, il y a un film dont vous parlez aussi dans le livre qui s'appelle La mort de Danton. C'est un film documentaire d'Alice Diop qui date de 2011 et qui suit Steve, un jeune étudiant en théâtre au cours Simon. On va écouter un extrait.
Mon prof, on dirait qu'il flippe aussi. On dirait que nous, on n'est pas... Les gens comme nous, on n'est pas dans leur tête. Rebours, notre ici, on n'est pas dans l'idée... C'est pas dans leur programme. Le cinéma, le théâtre, c'est pas pour les rebours, on dirait. Non, peut-être nous voyez rappeurs ou footballeurs ou faire le même boulot que papa ou maman, ou ramasser les papiers et tout, en plus, mais après... Nous, on n'est pas dans leur programme. La preuve, ils savent même pas nous choisir des scènes. Ils se pétent pour nous choisir des scènes.
Tu penses que ton prof, il sait pas choisir des scènes?
Il me dit chercher des scènes de noir. C'est moi ou toi le prof? C'est toi qui me dois me donner les scènes, j'ai pas à chercher. Hein.
Il te dit chercher des scènes de noir?
Un jour, il m'a dit, vous connaissez pas des auteurs noirs et tout?
Pourquoi?
Pour me donner ces scènes-là. Tellement que le mec, il est du père. Parce que tu sais, là, c'est parce que t'as dépassé le stade que tu peux plus te... Tu peux plus te... Tu peux plus te contenter des petites scènes qu'il te donne. Non, maintenant, il est obligé de dépasser un autre stade.
Mais pourquoi il te jouait que des scènes de blague? Tu peux pas jouer d'autres scènes que des scènes d'auteur noir?
Je sais pas, j'ai attendu un an pour une scène pour... Parce que j'ai fait une scène, là, avec le combat de possédé. Fallait que j'attende qu'il y ait un noir qui arrive pour la jouer. Pendant un an et demi. Il me dit, ouais, j'ai pas de noir et tout. Quoi. Pendant un an et demi. Je lui dis, mais je voulais lui dire, à ce niveau-là, on peut attendre même 15 piges. Je lui dis, non, attends, je vais chercher un petit massité, on va la faire, là. C'est... Et là, ça y est, c'est... il a trouvé un blanc, il a dit, on va le maquiller en noir. Pour la faire. Là, t'as vu le mec, comment il... Vraiment un truc de Dieu, dans... tu vois ce que je veux dire? Je lui ai dit, hey, moi, je vais chercher un petit massité, y a pas de problème, un petit roulement, je t'en ramène. On l'a fait, la scène, tranquille. Je lui donne le texte, il l'apprend, c'est bon. Je lui paye son mot au petit.
Il veut maquiller un blanc en noir pour faire la réplique.
Pour faire la réplique. Vlad. Voilà la pensée, tu vois ce que je veux dire.
Benda Diouf, est-ce que ce genre de récit, celui de Steve là, qu'on entend dans La mort de Danton, c'est des récits que vous avez entendus?
Ouais, peut-être déjà dire que je suis atterrée par cet extrait. C'est vrai que j'avais vu le film, et bon, ça fait longtemps, et j'avais peut-être certainement oublié, mais je trouve qu'il y a vraiment tout dans cet extrait, à la fois la question du racisme, des stéréotypes, la question du blackface, quoi. Vraiment, on a un condensé de tous les enjeux, en fait, sur lesquels on doit travailler aujourd'hui. Et malheureusement, ce propos de Steve n'est pas unique. Il fait partie d'un système. Hein, quand on parle de violence systémique, etc., c'est vraiment ça. C'est de se dire qu'il y a plusieurs personnes en fait qui vont subir les mêmes choses parce que il y a cette force des stéréotypes, de cet imaginaire colonial qui font qu'aujourd'hui encore on se retrouve avec des rôles très stéréotypés. Il y a eu le livre d'Aïssa Maïga et d'un collectif de comédiennes noires n'est pas mon métier il y a très peu de temps. Donc ça montre bien que les choses, malheureusement, c'était en 2011, on est en 2022, ont guère changé.
Il y a un moment qui est important, c'est mars 2015, parce que il y a un débat qui est organisé au Théâtre de la Colline. Il y a la création de ce programme qui s'appelle Premier Acte pour accompagner des jeunes comédiens, comédiennes victimes de discrimination, qui proposent des cours de théâtre pour préparer les grandes écoles. Et il y a un débat à ce moment-là sur la diversité sur les plateaux qui se passe au Théâtre de la Colline, très tendu. Et je crois que vous avez assisté à ce débat, Penda Diouf, et je crois que c'est aussi peut-être là que naît l'idée, ou ensuite après, de Jeunes Textes en Liberté que vous avez créé. Est-ce que vous pouvez raconter peut-être brièvement ce qui s'est passé, en tout cas pour vous, ce soir-là?
Oui, effectivement, tout à l'heure on parlait de la colère, et que la colère pouvait aussi être source de création de festivals. Bah, c'est exactement ce qui s'est passé pour les Franco, mais aussi pour Jeunes Textes en Liberté, puisque j'assistais à ce débat qui a effectivement été très houleux, et j'ai eu l'impression ce jour-là presque de découvrir le racisme institutionnel, alors que voilà, je suis née en France et que j'ai quand même eu à affronter pas mal de choses dans ma vie et dans mes carrières professionnelles. Mais j'ai trouvé que l'organisation, la façon dont la parole circulait était assez violente. Et par exemple, juste pour vous donner un peu un court exemple, mais la personne qui distribuait le micro est venue me voir, je levais la main depuis une trentaine de minutes, et à un moment, elle me dit « Non, mais eux, là-bas, ils ont déjà parlé. » En fait, ils me montrent un groupe de personnes noires que je ne connais pas. Voilà, donc c'est le genre de violence à laquelle je n'étais pas du tout préparée en allant à ce débat, mais voilà, que j'ai subi à ce moment-là. Donc, et Anthony Thibault, donc, qui est mon collaborateur sur Jeunes Textes en Liberté, était assis à côté de moi à ce moment-là, et par deux fois, lui aussi m'a empêché de parler, et je l'ai qualifié de blanc dominant colonialiste. Donc l'histoire a commencé comme ça, j'étais vraiment très en colère et je suis partie, je n'ai même pas assisté en fait aux lectures des étudiants de premier acte, tellement la colère me rongeait de l'intérieur. Et on s'est retrouvés avec beaucoup d'autres artistes racisés à l'extérieur de la colline, en se disant il faut qu'on discute, qu'on boive un verre. Et je crois que décoloniser les arts existait déjà, mais c'est vraiment formalisé à ce moment-là. Et pour Jeunes Textes en Liberté, donc le lendemain, Anthony m'écrivait un mail en disant « Bonjour Penda Diouf, je suis le blanc dominant colonialiste qui était à votre droite, j'aimerais qu'on puisse, qu'on puisse discuter ». Et c'est ce qu'on a fait, et on s'est dit qu'on allait créer Jeunes Textes en Liberté, donc un festival qui existe depuis 8 ans maintenant, et où nous cherchons à travailler cette question de la diversité pour que ça n'en soit plus une, et qu'on ait à la fois différents corps au plateau, mais aussi différentes narrations. L'idée, c'est aussi de provoquer la rencontre également, et aussi d'accompagner les auteurs et les autrices de théâtre contemporain au maximum pour que leurs textes puissent toucher les plateaux de théâtre et être accompagnés au mieux.
Et puisque, comme vous le dites, ça a plusieurs années maintenant, est-ce que vous voyez une évolution, ou en tout cas, est-ce qu'il y a de plus en plus de textes? Est-ce que dans ce que vous recevez, il y a des jeunes gens qui s'emparent aussi de l'écriture, qui peut-être avant ne le faisaient pas?
J'espère en tout cas que cette initiative-là, que Jeunes Textes en Liberté et les autres également ont encouragé les jeunes auteurs et autrices, et notamment les non-blancs. On reçoit de plus en plus en tout cas de textes où la question, les questions de discrimination, de racisme, de stéréotypes, de genre, d'orientation sexuelle, mais bien sûr aussi autour de la race, sont posées clairement. On est très attentif aussi à la question des stéréotypes des textes en eux-mêmes. Et là aussi, je trouve qu'il y a un effort qui est fait, en tout cas dans les textes qu'on reçoit dans Jeunes Textes en Liberté. Et j'espère aussi, quand je vois aussi les promotions dans les écoles de théâtre, et notamment dans les sections dramaturgie des écoles de théâtre, je me dis aussi que voilà, il y a de nouveaux récits qui sont là sur le point de naître, et qu'il faut être présent pour les accompagner, les suivre et les encourager en allant voir les spectacles par la suite, etc.
Sylvie Chalaï, quand vous retracez un peu l'histoire, vous parlez par exemple de 2002 où Marine Diaye entre au répertoire de la Comédie Française, où Bakary Sangaré entre aussi dans la troupe. Mais ces choses-là, au début des années 2000, ne permettent pas un réel changement à ce moment-là.
En fait, ce qu'évoque Steve, effectivement, est très précieux parce que il le dit dans sa langue à lui, avec ses maladresses, mais comme le disait très justement Penda, il y a tout dedans. C'est-à-dire à la fois le fait que tout ça se construit sur beaucoup d'ignorance, parce que à partir du moment où on voit l'acteur et il a une altérité, donc par rapport à soi, les comédiens et les professeurs du cours Simon, voyez en lui un noir, mais voyez pas l'acteur. Et du coup, c'est cela qu'il faut arriver à travailler dans les consciences, chez les artistes, les créateurs, les metteurs en scène, les programmateurs.
Et dans votre livre, d'ailleurs, il y a d'autres exemples assez assez fous, comme cette comédienne Yasmine Modestine, qui est au Conservatoire National d'Art Dramatique à Paris, et puis on lui dit d'aller plutôt lire les textes de Sony Laboutansi, qui est un auteur congolais, par ailleurs brillant, mais elle n'a pas plus de lien avec le Congo qu'un autre de ses camarades.
Bien sûr, puisqu'elle est d'origine martiniquaise et elle connaît très mal la Martinique.
On lui dit, tu représentes l'Afrique.
Absolument, on lui demande de représenter l'Afrique. C'est le syndrome de l'ambassadeur d'Afrique qu'on voit dans le noir immédiatement, quelqu'un qui va convoquer une altérité qui peut être d'ailleurs africaine ou américaine, puisqu'au cours Simon, Steve, on lui fait jouer des pièces dans lesquelles il y a des noirs africains-américains, parce qu'il y a une vraie ignorance. Mais en même temps, il faut travailler aussi sur le rapport à la création théâtrale, à la question de l'incarnation ou de l'emploi. Le fait d'être noir, d'être racisé, ethnicisé, d'être vu comme autre, c'est un problème du regard du blanc. C'est pas le problème de l'artiste. lui-même, du comédien. Et il faut envisager, effectivement, donc c'est important pour Steve, parce que lui, son coup de cœur, le personnage qu'il veut jouer, c'est un personnage donc qui est dans la pièce de Büchner. Il veut jouer Danton. Et il a effectivement le physique de Danton, parce qu'il a cette gouaille, cette dimension très très forte. Et lui, il se voit dans des comédiens qui sont des comédiens blancs. Il est capable de s'identifier parce qu'il ne se pose, lui, de son regard, il ne se pose pas la question de l'altérité. Il voit d'abord la vibration de l'acteur. Tant qu'on n'arrivera pas à justement sortir de cette dimension-là, c'est-à-dire de voir l'autre en dehors donc d'une sidération parce qu'il a un apparaître différent, les metteurs en scène ne pourront pas envisager finalement cette vibration de l'acteur.
Il y a même des choses qui peuvent s'intérioriser, parce que vous donnez un autre exemple d'un jeune comédien de premier acte, justement ce programme, qui dit « moi je pourrais jamais jouer un résistant français ». Parce que ce serait anachronique.
Bien sûr. Et donc là, il y a deux choses. C'est-à-dire, d'un côté, il faut que le regard donc, des metteurs en scène bouge et qu'ils envisagent effectivement les choses autrement pour pouvoir distribuer tous les corps dans des rôles. Parce que le jeu, c'est d'abord une transmission, c'est un passage, c'est un récit. C'est en fait, c'est raconter quelque chose avec son corps. Le corps n'est qu'un médium. Et effectivement, à force, on finit par intérioriser. Il y a des générations de jeunes gens qui n'imagine même pas qu'il y a des personnages. Effectivement, il y a des personnages noirs dans le théâtre français. Bon, mais d'abord, c'est pas parce qu'ils sont noirs ou racisés qu'ils peuvent pas jouer des héros. Ils peuvent jouer tous les héros du théâtre français. Mais ensuite, l'invisibilisation fait que je parlais tout à l'heure des comédiens qu'on ne connaît pas, Sorano, Aminel, mais on ne sait même pas. Alors, c'est vrai que ça, c'est un combat aujourd'hui que je mène aussi. Je pense que c'est très, très important de reconstruire notre histoire commune, notre histoire nationale de Français commune, en sachant que des grands artistes qui ont fait la gloire de la France, en France et à l'étranger, sont des artistes afrodescendants. Mais on ne le sait pas. Donc, Caroline Branchu, elle est afrodescendante, grande cantatrice de l'opéra, qui a son buste à l'opéra. On ne sait pas qu'elle est afrodescendante. On ne sait pas que Marius Petipas, vous avez Casse-Noisette dans le métro en ce moment, Marius Petipas, qui a été le grand, grand chorégraphe de l'invention du ballet moderne, en fait, d'une autre façon de penser le ballet au 19e siècle, eh bien, il a vécu en Russie, donc toute sa vie en Russie. Il a émigré en Russie, mais il est afrodescendant.
Penda Diouf, faut parler de cette émotion que vous avez eue à 19 ans devant La Cerisée de Jean-René Lemoyne. Vous êtes souvent face à des jeunes gens, soit lors d'ateliers ou de rencontres. C'est quoi la différence entre votre génération et la leur, ceux qui ont 19-20 ans aujourd'hui ?
Je pense que Netflix est passé par là déjà. Et que, en termes de représentation, on a quand même beaucoup plus d'images, on a beaucoup plus de récits, on a beaucoup plus de narrations qui se proposent au regard aujourd'hui que lorsque j'étais plus jeune. Peut-être c'est la première chose. Ensuite, il y a les réseaux sociaux aussi qui ont permis de sortir de l'isolement qu'on pouvait ressentir éventuellement lorsque on avait subi du racisme. Peut-être aussi qu'il y a un rapport aux politiques également qui a changé et qui est plus pas je sais pas s'il est plus fort aujourd'hui, mais en tout cas qui est vu autrement. C'est vrai que lorsque j'étais plus jeune, être raciste, c'était mal, mais c'était quelque chose qui avait lieu avec la morale. C'était quelque chose de on était une bonne personne si on n'était pas raciste, alors qu'aujourd'hui on déconstruit ces questions-là en disant non, le racisme vient de telle chose et que c'est aussi un système, et j'ai l'impression que les choses sont que politiquement, en tout cas, il y a peut-être plus d'outils aussi pour comprendre tout ça, déconstruire tout ça et y répondre autrement que lorsque j'étais plus jeune.
Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation de cette émission, à Inès Dupéron pour la préparation, à la technique ce soir. Merci à Dalia.